Merci d'écouter RFI. Il est 9h tout juste à Paris, 7h en temps universel. Le journal avec vous, Alban Le Prince, bonjour.
Bonjour Gaëtan, bonjour à tous. À la une, l'événement diplomatique le plus important jamais organisé en Russie. Ce sont les mots du Kremlin pour parler du sommet des BRICS qui s'ouvre aujourd'hui à Kazan. Vladimir Poutine attend une vingtaine de dirigeants. Il sera question de l'influence chinoise, mais aussi de la guerre en Ukraine. Au Proche-Orient, le Hezbollah poursuit ses frappes ce matin sur Israël, tandis que le chef de la diplomatie américaine doit arriver sur place. Objectif, négocier un cessez-le-feu à Gaza, mais aussi discuter de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Au sommaire aussi, votre dossier du jour consacré à la présidentielle américaine à 2 semaines du scrutin. Nous irons dans le Nevada, l'un des états clés. Et puis l'inquiétude de la communauté internationale après une manifestation violemment réprimée hier au Mozambique. Jour de grève générale à l'appel du principal opposant dont 2 proches ont été assassinés.
Ils ne s'étaient pas rencontrés depuis avril 2022.
Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, et Vladimir Poutine vont s'entretenir jeudi en marge du sommet des BRICS qui réunit à partir d'aujourd'hui une vingtaine de chefs d'État à Kazan. Une information communiquée par le Kremlin mais qui n'a pas à ce stade été confirmée par les Nations Unies. Moscou qui cherche à prouver que la Russie n'est pas seule et pour cela, Vladimir Poutine compte sur le soutien de son allié chinois qui veut étendre son influence mondiale et promouvoir la coopération économique entre les marchés émergents, le décryptage à Pékin de Cléa Broadhurst.
La Chine utilise les BRICS pour pousser à une réforme des institutions mondiales comme l'ONU, le FMI et la Banque mondiale, qu'elle juge trop dominées par les puissances occidentales. Pékin voit les BRICS comme une alternative ou un complément pour rééquilibrer l'ordre économique et politique mondial au profit des pays en développement. L'empire du milieu pousse de plus en plus à l'utilisation de monnaie locale plutôt que le dollar américain dans les échanges commerciaux entre les membres des BRICS, avec pour objectif à long terme de faire du yuan une monnaie internationale. La Chine souhaite des partenariats dans des domaines comme l'intelligence artificielle, la finance numérique et les technologies vertes, ce qui s'aligne avec ses objectifs nationaux et internationaux. L'idée est aussi de diluer l'influence occidentale. Elle est aussi un grand défenseur de l'élargissement des BRICS à d'autres pays en développement pour renforcer le poids économique et politique du groupe, comme la Turquie par exemple, car la position stratégique du pays, son économie croissante et son rôle en tant que pont entre l'Europe et l'Asie dans les nouvelles routes de la soie en font un candidat attrayant. Mais les relations complexes entre Ankara et d'autres membres comme l'Inde ou la Russie, pourrait compliquer son intégration. Cléa Broadhurst, Pékin, RFI.
Autre enjeu de ce sommet des BRICS, la guerre en Ukraine, puisque ce matin, la Corée du Nord a nié envoyer des soldats en Russie pour être mobilisés en Ukraine, en réaction aux informations communiquées par les renseignements sud-coréens qui s'attendent à l'envoi de 12 000 soldats nord-coréens en Russie. 1 500 s'y trouveraient déjà. Explication de Celio Fioretti.
Les troupes nord-coréennes seront-elles utilisées sur le front ukrainien? Une question à laquelle ni le Kremlin ni l'ambassadeur russe à Séoul n'ont souhaité répondre. La Corée du Sud s'insurge contre ce déploiement de troupes qu'elle considère en violation des résolutions de l'ONU sur la Corée du Nord. Le ministère des Affaires étrangères a exigé le retrait immédiat des soldats nord-coréens. Moscou assure que cette opération est tout à fait légale et qu'elle ne porte pas atteinte à la Corée du Sud, mais il va en falloir plus pour assurer Séoul. Le chef de l'OTAN, Mark Rutte, a téléphoné au président sud-coréen ce lundi pour évoquer la situation. Si pour l'heure il est impossible de savoir si les forces nord-coréennes prendront bien part au combat en Ukraine, l'OTAN et la Corée du Sud redoutent une escalade du conflit. Une situation qui pourrait entraîner indirectement la Corée du Sud dans le conflit. Jusqu'ici, Séoul se refusait à envoyer des armes en Ukraine, mais le gouvernement discute actuellement de cette possibilité, ainsi que de sanctions contre la Russie. C'est le Fioretti, Séoul, RFI.
L'actualité ce matin, Alban, c'est évidemment aussi le Proche-Orient où le Hezbollah revendique ce matin une nouvelle frappe sur une base du renseignement israélien près de Tel Aviv.
Le mouvement pro-iranien annonce également avoir visé une base navale près de Haïfa en Israël. Alors qu'Anthony Blinken vient d'arriver dans le pays, le chef de la diplomatie américaine va pour la onzième fois tenter de trouver un accord sur un cessez-le-feu à Gaza. Demain, il ira en Jordanie pour discuter de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne où rien n'est en entrée depuis le début du mois, Alice Froussard.
Il n'y a que très peu d'images qui parviennent du nord de la bande de Gaza, assiégée depuis déjà 17 jours, un siège dans un siège. Des témoignages difficiles à obtenir car Israël a bloqué le réseau internet et téléphonique. Mais depuis hier, une vidéo filmée par un journaliste sur place tourne sur les réseaux sociaux.
Qui a été tué? Tous? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu!
On y voit une dizaine de corps ensanglantés gisant au sol sur les marches d'un abri de l'UNRWA dans le camp de Jabalia. Des femmes et des enfants. L'abri a été visé par l'armée israélienne. Il n'y a plus d'ambulance pour les blessés. L'horreur est presque indescriptible. Les seuls Gazaouis joignables dans cette zone sont les déplacés. Ceux qui ont réussi à la quitter, à dépasser les checkpoints sans se faire tirer dessus. C'est le cas de Nasser Chakouri.
Ce qui nous arrive dans le nord n'est pas anodin. Des familles entières sont tuées. Pourquoi cela nous arrive-t-il ? Où sont les droits de l'homme ?
Car dans le même temps, Israël bloque toujours l'aide humanitaire dans cette zone. Les hôpitaux sont privés d'électricité, les blessés laissés sans soins. Sur place, il n'y a plus d'eau, plus de nourriture, plus de médicaments, explique Sam Rose, directeur adjoint des affaires de l'UNRWA à Gaza.
Aucune aide n'a pu être acheminée là-bas depuis 2 ou 3 semaines, alors que des centaines de milliers de personnes y sont encore bloquées.
Et d'après Philippe Lazzarini, directeur de l'UNRWA, utiliser l'aide humanitaire à des fins militaires est un signe de la faiblesse de la boussole morale.
Alice Froussard.
À J-14, nous sommes à 2 semaines maintenant de la présidentielle américaine.
Et les candidats jettent toutes leurs forces dans la bataille. Kamala Harris accorde aujourd'hui une interview à la chaîne NBC, tandis que Barack Obama fera campagne pour elle. De son côté, Donald Trump participera à une table ronde avec des électeurs latinos en Floride avant de s'envoler à nouveau pour la Caroline du Nord, où il était déjà hier. Et comme chaque mardi, le dossier du jour est consacré à l'un des états clés du scrutin, des swing states qui peuvent basculer d'un côté comme de l'autre. Aujourd'hui, le Nevada, 6 grands électeurs seulement, mais les sondages sont tellement serrés que chaque voix compte. Bonjour Christophe Paget.
Bonjour.
Du service international de RFI, les candidats sont allés déjà plusieurs fois dans le Nevada. L'objectif est toujours le même, convaincre les électeurs. Mais quels sont les grands thèmes qui les intéressent dans cet état ?
Alors le principal, c'est comme souvent l'économie, mais il faut dire que le Nevada a subi de plein fouet la crise du Covid, car son industrie dépend en très grande partie de l'hôtellerie et de la restauration. Rappelons que Las Vegas, célèbre pour ses hôtels et ses casinos, se trouve au Nevada et que la région métropolitaine de Las Vegas rassemble les 3/4 de la population. Or, la reprise post-Covid a été plus lente qu'ailleurs et le taux de chômage est un des plus forts du pays. Voici ce que promettait Kamala Harris en août dernier à Las Vegas.
Quand je serai présidente, nous continuerons notre combat pour les familles américaines qui travaillent, y compris en augmentant le salaire minimum et en éliminant les taxes sur les pourboires pour ceux qui travaillent dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration.
Alors Alban, précisons qu'éliminer les taxes sur les pourboires, Donald Trump l'avait déjà promis au même endroit quelques semaines plus tôt. Mais dans le Nevada, jusqu'ici, les démocrates ont bénéficié du soutien des électeurs syndiqués et le plus gros syndicat de l'État soutient cette année Kamala Harris.
Et traditionnellement, dans le Nevada, les démocrates bénéficient aussi de l'appui des minorités.
La principale, ce sont les latinos. 30% des habitants, 20% des électeurs, mais la moitié ne serait pas affiliée à un parti. Selon un sondage d'août dernier, avec les latinos, Kamala Harris ferait toujours mieux que Donald Trump, mais son avance serait moins importante que celle de Joe Biden en 2020. Le 12 octobre, Donald Trump participait à une table ronde avec des électeurs latinos.
Lorsque j'étais président, pour les Américains d'origine hispanique, les revenus n'ont jamais été aussi hauts et la pauvreté jamais aussi basse. Et je vais vous dire ce qui arrive à la frontière, parce que ça vous affecte peut-être plus que les autres, les Afro-Américains, les Américains d'origine hispanique. Les gens se déversent à la frontière et prennent vos emplois à cause de Kamala et Biden.
À chacun de leurs déplacements dans l'État, Donald Trump et son colistier, J.D. Vance, insistent sur l'immigration qui, même si le Nevada n'est pas un État frontière, reste un thème de campagne important. Kamala Harris elle-même est revenue fin septembre à Las Vegas, juste après s'être rendue sur la frontière avec le Mexique.
Et dernier thème de campagne important, c'est celui du logement.
Le Nevada attire beaucoup de monde, surtout des Californiens qui cherchent une vie moins chère. Mais au Nevada, cela fait augmenter le prix des logements, qui deviennent hors d'atteinte pour les résidents, plus 34% depuis l'arrivée de Joe Biden à la présidence. Kamala Harris promet donc de donner 25 000 $ à ceux qui achètent pour la première fois, Donald Trump de baisser les prix en arrêtant ce qu'il appelle l'invasion des étrangers illégaux. Selon un sondage de septembre, c'est la démocrate qui aurait l'avantage sur le logement. 49% des habitants du Nevada lui font confiance contre 39% pour Donald Trump.
Merci beaucoup Christophe Paget.
Il est 7h09 en temps universel. Avec 23 000 inscrits, la COP16 Biodiversité qui s'est ouverte hier à Cali en Colombie est la plus grande jamais organisée.
Cali, où 140 ministres et une douzaine de chefs d'État participent au rendez-vous. C'est dans ce contexte que la Banque mondiale et le FMI organisent cette semaine leurs réunions annuelles à Washington, où les ministres des Finances du G20 sont également attendus. Au menu des discussions, prévisions économiques annuelles, réforme des institutions, à l'approche de la COP29 sur le climat, ces rencontres seront aussi l'occasion de chercher des compromis en matière de finances climatiques. Les précisions de Pauline Glaise.
De nouveaux signaux pour que les pays en développement disposent de fonds pour l'action et l'investissement climatique. C'est ce qu'espère voir Simon Steele, le patron de l'ONU Climat, lors de ces réunions. Des experts s'attendent à ce que la Banque mondiale finalise sa feuille de route pour l'évolution de son fonctionnement lors du G20 Finance. Cela pourrait redéfinir son rôle dans le financement du climat. Ajay Banga, le président de la Banque mondiale, discutera aussi avec Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor, d'une augmentation de capital. Mais avant d'en arriver là, les principaux États membres veulent s'assurer que l'institution tire profit au maximum de son bilan et de ses réformes. Des évolutions techniques récentes devraient permettre à la banque de prêter plus sans avoir plus de fonds propres. Or, elle a fait du financement de l'adaptation et de la lutte contre le réchauffement climatique l'un de ses principaux axes. Mais une ombre vient d'être jetée sur ses promesses. Oxfam dénonce un manque de transparence sur 40% des financements verts. Un rapport jugé intéressant par Ajay Banga qui entend améliorer le suivi. Le G20 continuera, lui, de discuter d'une éventuelle taxe des plus riches.
Pauline Glaise. En France, l'alerte enlèvement est déclenchée pour tenter de retrouver Santiago, un bébé de 17 jours, enlevé hier soir dans une maternité d'Aulnay-sous-Bois, près de Paris. Prématuré, il doit disposer d'une prise en charge médicale indispensable. Les suspects sont ses parents. Son père est un homme âgé de 23 ans, sa mère âgée, elle, de 25 ans.
Les États-Unis condamnent ce matin l'assassinat de deux proches de Venancio Mondlane.
Le principal opposant mozambique et candidat à la présidentielle qui avait appelé hier à la grève générale pour dénoncer des fraudes électorales alors que le pays attend toujours les résultats définitifs de ces élections. C'est dans ce contexte que la manifestation organisée à Maputo, la capitale, a été dispersée par des policiers anti-émeutes à coups de grenades lacrymogènes. Le récit de Gaël Alex.
C'est avec une grande préoccupation que nous suivons la situation au Mozambique, a déclaré hier Paul Rangel, ministre des Affaires étrangères du Portugal. Il rappelle qu'il est fondamental pour le pays que le processus électoral se déroule bien et aboutisse à des autorités légitimes. Plus tôt dans la journée, la délégation de l'Union européenne au Mozambique a jugé préoccupante la violente répression des manifestations du jour. Selon l'organisation de la société civile Véritable Démocratie, les policiers ont utilisé des gaz lacrymogènes et balles en caoutchouc pour disperser toute tentative de rassemblement. Venancio Mondlane lui-même a essuyé des tirs de gaz lors d'un point presse organisé devant son siège de campagne. Dans une vidéo postée sur Facebook, il accuse même les policiers d'avoir utilisé des balles réelles contre les manifestants. C'est ça le vrai terrorisme, déclare-t-il, tiré sur des jeunes sans défense. Ce matin, la tension est toujours vive au Mozambique. Les funérailles de l'avocat de Venancio Mondlane et de son allié politique assassiné vendredi doivent se tenir aujourd'hui. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Deux morts et au moins 5000 déplacés. C'est le bilan des attaques de gangs dans le sud de la capitale haïtienne, Port-au-Prince, communiqué ce matin par la protection civile. Hier, une école a également été visée dans la commune de Lester où un parent d'élève a été tué et plusieurs écoliers blessés.
On termine ce journal, Alban, avec la grosse sortie cinéma demain en France.
Monsieur Aznavour, un film sur la vie du chanteur français, sûrement l'un des plus connus au monde. Et c'est l'acteur Tahar Rahim qui campe le rôle de Charles Aznavour, disparu en 2018, Sophie Torlotin.
Il vendit plus de 100 millions d'albums, fit des tournées triomphales dans le monde entier, enregistra des duos avec Frank Sinatra et pourtant, Charles Aznavour n'avait pas beaucoup d'atouts dans son jeu. On lui dit qu'il n'a pas le physique pour réussir et même Edith Piaf, qui le prend sous son aile, tente de le dissuader de se lancer dans une carrière de chanteur.
Pour être chanteur, il faut une voix et ta voix, elle est voilée.
Le biopic de Grand Corps Malade et Mehdi Idir insiste sur les premières années difficiles de Charles Aznavour, Grand Corps Malade.
C'était une de ses volontés. Les grosses tournées internationales, le succès, tout ça, ça l'intéressait pas. Il voulait vraiment parler de sa jeunesse, des années galères. Évidemment, donc fils de réfugié arménien, très pauvre, il a rien pour réussir. Et à force de volonté, de travail, mais évidemment quand même d'un talent intrinsèque, il finit par s'imposer.
Si je dois tout négliger autour de moi pour y arriver, je le ferai.
C'est cette histoire d'ascension qui donne tout son sel à ce biopic finalement classique, porté par la composition de Tahar Rahim, qui, comme Aznavour, a travaillé dur sa gestuelle et sa voix pour interpréter les standards de son illustre modèle.
La formule Aznavour,
Monsieur Aznavour, c'est donc demain dans tous les cinémas de France.
Ah, merci à vous, Alban Le Prince. Il est 9h15 à Paris. On va longtemps, longuement en parler dans les prochaines minutes de la COP16 biodiversité qui s'est ouverte hier à Cali, en Colombie, le tout sous haute sécurité à cause des menaces proférées par une guérilla. Et puis biodiversité et agriculture, il y a un lien, c'est évident, quoique peut-être pas si évident que ça, puisque le sujet est en général boudé. Lors de ces grands rendez-vous internationaux, on essaiera de comprendre pourquoi dans notre question environnement du jour. Mais d'abord, la revue de presse internationale avec vous, Frédéric Couteau, et à la une, suspense total à 15 jours de la présidentielle aux États-Unis.
L'hiver approche et pourtant les journées électorales s'allongent, constate Le Monde à Paris, engagé dans une empoignade incertaine, tendue et souvent confuse. Kamala Harris et Donald Trump multiplient les déplacements et les prises de parole. Les coups fusent, chaque heure est un heurt. À deux semaines d'une élection présidentielle le 5 novembre qui mettra à l'épreuve l'état de droit américain et la solidité des procédures de vote, les candidats se focalisent sur un nombre réduit d'États pivots qu'ils labourent avec ardeur. Arizona, Nevada, Michigan, Wisconsin, Pennsylvanie, Caroline du Nord, Géorgie, c'est là que se décidera la route vers les 270 grands électeurs indispensables pour entrer à la Maison Blanche. Il suffira peut-être, s'exclame Le Monde, d'un comté, d'une ville ou d'un quartier favorable pour que les dominos tombent au profit de l'un ou de l'autre, à moins que derrière les sondages, souvent contradictoires, ne se dessine une surprise, une victoire plus franche, plus indiscutable que ne l'envisage la quasi-totalité des experts.
Les sondeurs se sont trompés en 2020, se tromperont-ils à nouveau en 2024, s'interroge le Wall Street Journal.
En effet, il y a 4 ans, les enquêtes indiquaient que Joe Biden fermait la marche face au président sortant Donald Trump, qui avait une confortable avance entre 7 et 8 points. Résultat, Joe Biden l'a emporté avec un peu moins de 4,5 points d'avance, ce qui lui a permis d'arracher de justesse la victoire au collège électoral. Alors, si les sondages manquent encore la cible cette année, la faible avance de la vice-présidente Kamala Harris observée aujourd'hui se révélerait en fait être une avance pour Trump. Depuis 2020, les sondeurs ont tenté d'améliorer leurs outils, mais les observateurs sont sceptiques, pointe encore le Wall Street Journal. Nous nous dirigeons vers un nouveau désastre, affirme le John Krosnick, politologue à l'université de Stanford. Entre autres problèmes, il estime que de nombreuses enquêtes en ligne récentes utilisent des méthodes d'échantillonnage qui n'ont pas fait leurs preuves. Une autre politologue, Courtney Kennedy du Pew Research Center, a suivi les changements apportés par les sondeurs ces dernières années pour améliorer la précision de leurs enquêtes et elle espère que la situation va s'améliorer. Les sondeurs se sont efforcés de corriger leurs erreurs, affirme-t-elle, mais il n'y a pas de solution miracle. Bref, on reste dans le flou.
Et en attendant, Frédéric, les candidats entament leur sprint final.
Et Donald Trump multiplie les outrances verbales. Paul Krugman, l'un des éditorialistes du New York Times, n'en revient pas. Il est clair qu'il se passe quelque chose avec Trump, écrit-il, il y a encore un an. Je ne pense pas qu'il aurait commencé un meeting par 12 minutes de remarques décousues sur le défunt golfeur Arnold Palmer, conclu par une disgrâce sur la taille du pénis de ce même Arnold Palmer. Et en effet, constate le Figaro à Paris, Donald Trump accumule ces derniers jours des grossièretés impensables pour des millions d'Américains. Le milliardaire populiste n'a jamais fait dans la dentelle, notamment en privé, mais cette succession de vulgarités, dites en public, en pleine campagne pour la Maison-Blanche, surprend ou encore consterne. Samedi soir, en meeting à Latrobe en Pennsylvanie, précise le journal, le républicain de 78 ans a ouvert son discours par une digression surprenante donc sur la star locale, Arnold Palmer, décédé en 2016, légende américaine du golf, en expliquant combien les autres golfeurs professionnels étaient impressionnés par l'appareil génital du champion.
Et durant ce même meeting, pointe encore le Figaro, Donald Trump a adressé une bordée d'injures à sa rivale démocrate Kamala Harris.
« Tu es une vice-présidente de merde, la pire, tu es virée, dégage d'ici », a-t-il lancé. Et auparavant, Trump avait qualifié la vice-présidente des États-Unis de « tarée », de « glandeuse » ou encore de « véritable pourriture ». Dans l'entourage du républicain, certains s'inquiètent qu'avec ces nouvelles outrances, ils s'aliènent les électeurs les plus modérés du parti, alors que chaque voix comptera pour la présidentielle du 5 novembre. Kamala Harris, elle, l'a bien compris, relève le Figaro. Hier, elle a été rejointe sur son estrade de campagne par la républicaine Liz Cheney, figure de la droite anti-Trump. Cette femme, devenue la bête noire du septuagénaire, a récemment appelé les électeurs à rejeter la cruauté dépravée de Donald Trump, réplique de l'ancien président. De toute manière, Liz Cheney et con comme un balai.
Et voilà, un langage bien fleuri. Merci à vous, Frédéric Couteau, 9h19 à Paris. La COP16 sur la biodiversité s'est ouverte hier en Colombie, à Cali. Et le slogan cette année, « paix avec la nature. Nous sommes la nature, a déclaré la ministre colombienne de l'Environnement, Susana Muhammad, qui a pris la présidence de cette conférence onusienne. La planète n'a pas de temps à perdre, a-t-elle également déclaré. L'association WWF ne dira pas le contraire, puisque selon son récent rapport, les populations d'espèces vertébrées ont diminué de plus de 70% ces 50 dernières années. Au Japon notamment, certaines espèces se raréfient à vue d'œil. Et puis là-bas, au Japon, donc, autre signe d'une biodiversité mise à mal, des animaux sauvages en viennent désormais à s'aventurer dans les grandes villes. Reportage à Tokyo de Bruno Duval.
À Tokyo, la nuit, on croise de plus en plus souvent des civettes ou chats musqués, ces petits mammifères qui ressemblent un peu à des fouines et qu'on n'avait jamais vus en ville auparavant. Encore plus improbable, dans la capitale, désormais, on aperçoit des singes, y compris dans les arrondissements centraux très peuplés, comme Itabashi. Ces deux habitants n'en reviennent toujours pas d'avoir entrevu de tels macaques.
Il s'épouillait tranquillement, juché sur un muret. J'en étais médusé. Ensuite, il a escaladé un arbre, puis de là, a sauté sur le toit d'une maisonnette et il s'en est allé.
Deux ou trois macaques couraient après des enfants qui rentraient de l'école. Les pauvres petits, ils étaient complètement terrorisés.
Pour les spécialistes, ces animaux sauvages se hasardent en ville en raison de l'urbanisation à outrance des zones semi-rurales jouxtant le centre de la capitale. Qui est si densément peuplé et bâti que, pour accueillir de nouveaux habitants, les campagnes ne cessant de se dépeupler au Japon, il faut à présent et impérativement bétonner les faubourgs, raser des forêts par exemple, où ces singes vivaient. Résultat, faute de lieux d'habitat, ils migrent en ville. Moins spectaculaire, mais selon les experts plus inquiétant, à en croire le dernier recensement en date du ministère de l'Environnement, une quinzaine d'espèces d'oiseaux sont menacées à terme de disparition dans l'archipel. Parmi elles figurent des espèces jadis aussi courantes que le moineau, la bergeronnette ou la bécassine par exemple. En cause, la réduction des zones humides dues au réchauffement climatique et l'urbanisation des forêts, des prairies ou des bocages où ces espèces vivaient. Pour cet ornithologue, deux autres facteurs accélèrent la raréfaction des oiseaux.
En ville, ils ont de moins en moins d'endroits où nicher. Les hirondelles, par exemple, construisent leur nid sous les avant-toits, sous les corniches ou dans des interstices entre les tuiles. Mais énormément de maisons individuelles ont cédé la place à des immeubles pleins d'appartements qui ne leur offrent pas une telle possibilité. Et puis, en milieu rural, ces oiseaux ne trouvent plus de quoi se nourrir en raison de la généralisation de l'usage des pesticides. On trouve de moins en moins d'insectes et de vers de terre. Et à terme, cela va poser de gros problèmes aux agriculteurs. Moins d'oiseaux, cela veut dire plus d'insectes qui prolifèrent. Donc, la nécessité d'utiliser encore plus d'insecticides. Bref, un cercle vicieux sans fin et extrêmement nuisible à l'environnement.
Une trentaine d'espèces de papillons sont également menacées de disparition au Japon. Faute d'alimentation suffisante, la transformation d'espaces verts en zones d'habitat réduisant le nombre et la variété de plantes a butiné. À cet égard, alertent les experts, l'extinction redoutée de ces insectes pollinisateurs essentiels aurait des conséquences catastrophiques sur la biodiversité végétale. Bruno Duval, Tokyo. RFI.
Et c'est un peu l'éléphant dans la pièce, le sujet évident, incontournable, en apparence en tout cas, puisque dans la réalité, il est bien souvent mis de côté dans les négociations sur la biodiversité. Je parle du lourd impact de notre système de production agricole sur les plantes et les animaux de la planète. Les scientifiques sont clairs, on ne pourra pas sauver le vivant sans changer notre agriculture. Alors le sujet sera-t-il une fois de plus ignoré? C'est le sujet de votre question d'environnement du jour. Jeanne Richard, bonjour.
Bonjour.
Car c'est un fait, Jeanne, agriculture et biodiversité sont intimement liés.
La biodiversité a toujours été utilisée pour produire à manger. On en est dépendant pour vivre, tout simplement. Ce sont les insectes pollinisateurs, indispensables à trois espèces cultivées sur quatre, ou les vers de terre et les micro-organismes qui font la fertilité des sols, sans parler de la grande variété de plantes adaptées à leur terroir. Sauf qu'après la Seconde Guerre mondiale, nous avons fait entrer l'agriculture dans une ère d'industrialisation et d'artificialisation. À l'époque, il fallait augmenter les rendements pour nourrir le monde après 6 ans de guerre et de destruction. Aujourd'hui, ce mode de production est la première cause de l'effondrement du vivant. Attention, ça n'est pas l'agriculture qui pose problème, mais cette façon intensive de la pratiquer. Pesticides, mécanisation, engrais, immenses parcelles à nu, tout contribue à dégrader le sol qui se meurt. On se retrouve avec des ravageurs de plus en plus coriaces qui résistent aux pesticides, le tout avec un bilan carbone désastreux. Les systèmes alimentaires et la déforestation qui va avec représentent 37% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. On va dans le mur, il faut changer de modèle.
Mais alors, est-ce que ça veut dire, Jeanne, revenir en arrière à une agriculture peut-être plus durable, mais aussi bien plus incertaine en termes de rendement et de qualité ?
Eh bien non, la solution c'est l'agroécologie. Ce sont l'ensemble des techniques pour mieux utiliser la nature, optimiser les services qu'elle rend à l'agriculteur. La biodiversité n'est pas l'ennemi de l'agriculteur. Au contraire, explique Selim Louafi du CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.
Ces nouvelles pratiques plus respectueuses de la biodiversité cherchent à valoriser, en fait, les éléments de la biodiversité présents dans les sols, parce que on a eu tendance à les voir uniquement sous un angle négatif. Mais l'idée, c'est justement d'amplifier, d'intensifier ces processus écologiques dans l'espace cultivé qui servent à maximiser la photosynthèse, contrôler les populations de bioagresseurs, réactiver les cycles nutritifs pour limiter l'usage d'intrants coûteux. Donc tout ça nécessite énormément de nouvelles connaissances, de nouvelles technologies. Et donc, il ne s'agit pas d'un retour en arrière, comme c'est caricaturé souvent.
Et même si cette transformation du modèle agricole actuel est essentielle, Jeanne, le sujet est tendu et loin de faire l'unanimité.
Les grands pays agricoles qui ont basé leur modèle économique sur l'exportation de cultures intensives sont réticents, c'est clair, hein, le Brésil, l'Argentine ou l'Inde par exemple. D'autres, l'Europe notamment, ont des discours plus ambitieux, mais font face en interne à de puissants lobbies d'industries chimiques qui produisent engrais et pesticides, qui ont des moyens colossaux pour influencer les politiques et freiner la transition.
Merci Jeanne Richard, c'était la question environnement du jour sur RFI consacrée donc à cette COP16 biodiversité qui s'est donc ouverte à Cali en Colombie, c'est jusqu'au 1er novembre et c'est la plus grande jamais organisée, 23 000 inscrits. Et au-delà des enjeux qu'on a pu évoquer, l'événement pose aussi un certain nombre de défis aux pays sécuritaires notamment. On en parle avec vous Marie-Ève De Teuf, vous êtes notre correspondante en Colombie. Alors avant de se pencher sur ces défis que j'évoquais, une question d'abord, pourquoi cette COP se tient-elle dans la ville de Cali ?
Cali est située dans une ville très biodiverse, comme on dit maintenant. La ville est à flanc de montagne, à flanc de la cordillère des Andes, qui a des pics enneigés à plus de 6000 mètres d'altitude, et tout près de la côte pacifique, qui est, elle, couverte de forêts tropicales. Cali est la troisième ville de Colombie, avec près de 2,5 millions d'habitants, soit trois fois la population de Marseille. Cela dit, ce n'est pas une capitale, Cali n'a pas les infrastructures de Bogota, et c'est un premier défi. Mais Cali se targue d'être la capitale mondiale de la salsa et elle peut faire danser beaucoup de monde.
Ouais, enfin, ça n'en demeure pas moins un vrai défi logistique pour la Colombie.
140 ministres et une douzaine de chefs d'État, c'est du jamais vu pour Cali. Le défi logistique est d'autant plus grand que le gouvernement de Gustavo Petro, qui est un gouvernement de gauche, a voulu faire de cette COP la COP de la gente, la COP des gens. Des dizaines d'organisations sociales, des universités, des organisations ethniques, des entreprises privées ont été invitées à se joindre à l'événement. 23 000 personnes se sont inscrites. Les autorités qui en attendaient 12 000 sont sur les dents. Elles ont peur d'être un peu débordées par cette foule.
Voilà, ça c'est pour le défi logistique. Il y a aussi, je le disais Marie-Ève, un autre défi et pas des moindres, un défi sécuritaire.
Le vrai problème pour les autorités, ce sont les groupes armés qui sévissent dans la montagne au sud de la ville de Cali. L'état-major central, ou EMC, qui est le principal groupe dissident de l'ancienne guérilla des FARC, souffle le chaud et le froid depuis des semaines. En juillet, il a d'abord menacé de saboter la COP, puis en août, il a dit qu'il ferait une trêve. Il y a 10 jours, l'EMC demandait aux délégations internationales de s'abstenir de venir. Le gouvernement s'est fait immédiatement rassurant. La sécurité de la COP est garantie, a dit le chef de l'État. Les autorités rappellent que 11 000 policiers et soldats ont été envoyés en renfort dans la ville et ses environs. Ici, les analystes ont vu dans les messages de l'EMC plus qu'une menace réelle, un chantage dans le cadre des difficiles pour parler de paix engagés par le gouvernement avec les groupes armés. Mais le risque zéro n'existe pas et il y a 3 jours, le président Petro admettait qu'il était nerveux.
Merci Marie-Ève De Teuf, correspondante de RFI en Colombie. Dans un petit peu plus d'une minute maintenant, un nouveau journal consacré à l'actualité africaine. Et puis dans la dernière partie d'RFI Matin, on sera notamment aux États-Unis. Rencontre à suivre avec deux Camerounais qui ont créé là-bas une fondation visant à faire du Cameroun un pays spécialiste de la robotisation. A tout de suite.
RFI, la sélection du mois.
Encore malade.
Je vous parle d'un temps.
La bohème.
Je vous parle d'un temps.
Ça voulait dire.
La nostalgie comme emblème, entre galère et poème. À chacun sa bohème.
Joséphine
Lojo.
Viens-tu du jazz ou du mambo?
RFI Musique.
ce mardi sur RFI.
Comment les odeurs agissent sur notre cerveau ?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
L'odorat est notre tout premier sens, celui qui nous relie in utero déjà à notre mère, à la source de tous nos goûts et de nos dégoûts, aussi bien alimentaires que sensuels et sexuels. Pourquoi une odeur ou un parfum éveille tant d'émotions et de souvenirs ? Notre cerveau a-t-il du nez ?
Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.